L'actualité politico-judiciaire. Le haut commissaire a pris les arrêtés de démission d'office de Philippe Gomez et de Philippe Michel. La station mobile de Poya cambriolée, c'était la nuit dernière. La direction déplore des dégâts importants et l'impact non négligeable pour les habitants. La police nationale et la police municipale de Nouméa, main dans la main face au vol. Une campagne de prévention est lancée ce jeudi. Un chantier de ferme photovoltaïque a démarré aujourd'hui à Conné. La ferme sera installée sur le terrain de la GDPL de Poivy-d'Aftia et sera fonctionnelle dès le premier semestre de 2026. Choisir ses études post-bac et s'orienter au mieux, c'est le but de Cap Horizon, le nouveau nom du salon des études supérieures qui aura lieu le 2 août prochain. Et puis du sport avec du rugby en métropole, c'est la reprise pour les clubs et les joueurs de Top 14. Le Calédonien Mathieu Hila est de retour à l'entraînement avec le MHR. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal et à la une ce jeudi soir, l'actualité politico-judiciaire. Le haut commissaire a pris les arrêtés de démission d'office de Philippe Gomez et de Philippe Michel, Jean-François Baudin.
On rappelle que les deux élus de Calédonie Ensemble ont été condamnés le 2 juillet par le tribunal de Nouméa. Philippe Gomez a été condamné à 4 ans de prison dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique et 5 ans d'inéligibilité. Et Philippe Michel a été condamné à 3 ans de prison dont 1 ferme aménagée et 5 ans d'inéligibilité. À la suite de ces condamnation. Le haut-commissaire a pris des arrêtés de démission d'office de Philippe Gomez et de Philippe Michel concernant leur mandat de membre de l'Assemblée de la Province Sud et de membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de tous les mandats qui dépendent de ceux-ci. Ces arrêtés ont été transmis aux intéressés pour notification ainsi qu'à leur conseil. Il existe maintenant un délai de 15 jours pour que ces notifications soient effectives, le temps que les intéressés en prennent acte. Le Congrès et l'Assemblée de la Province Sud seront alors informés officiellement de la perte de leur mandat des deux élus concernés.
Le général Marquis Letchia est lui démis de ses fonctions. L'ancien directeur de la DSCGR était suspendu à titre conservatoire pour 4 mois après des dénonciations de son adjoint concernant notamment son management. Le gouvernement a pris un arrêté pour mettre fin à son contrat. 2 plaintes ont été déposées à l'encontre du général Frédéric Marquis Letchia. Une enquête administrative concerne des manquements managériaux. Sur le plan pénal, l'enquête porte sur des malversations financières présumées. Les investigations sont en cours et le général Marquis Letchia n'a pas été entendu ni par le gouvernement ni par le juge d'instruction. Malgré tout, le président du gouvernement, Alcide Ponga, a pris un arrêté pour le démettre de ses fonctions pour des manquements graves à ses obligations professionnelles, susceptibles d'être qualifiés pénalement, tels que le délit de favoritisme, détournement de biens ou de fonds publics, le faux et usage de faux. Le général Marquis Letchia dément les faits qui lui sont reprochés. Au chapitre des faits divers, cette dernière semaine aura été mouvementée pour les pompiers et les forces de l'ordre. Plusieurs exactions ont été signalées un peu partout sur le territoire, à commencer par des tirs de chevrotine sur des gendarmes à Coumac. C'était dans la nuit de samedi à dimanche dernier, Jean-François.
Les gendarmes ont voulu procéder dans le village à un contrôle du véhicule qui avait plusieurs personnes à bord. Mais le chauffeur ne s'est pas arrêté. Une course-poursuite s'est alors engagée et après un écart sur la route, le passager arrière de la voiture en fuite a sorti un fusil et il a fait feu sur le véhicule des gendarmes. Plusieurs dizaines de plombs ont atteint le capot et le pare-brise, mais sans faire de blessés. D'après nos informations, le conducteur a été retrouvé d'abord par la brigade de recherche ce lundi. C'est lui qui a dénoncé ses complices qui ont tous été interpellés et présentés à un juge hier à Nouméa.
À Poya, c'est une station mobile qui a été victime d'un vol à la voiture Bélier la nuit dernière.
Oui, les faits se sont déroulés aux alentours de 3 heures du matin. 2 véhicules se sont approchés de la station. L'un d'eux a servi à enfoncer la vitrine. Plusieurs individus sont alors entrés pour voler du tabac, de la nourriture et le fond de caisse. C'est l'exploitant de la station qui habite juste au-dessus du commerce qui a fait fuir les individus. Franck Willems, le directeur général de la société mobile, déplore les dégâts matériels plus que le vol.
Maintenant, on constate que les gens par voiture Bélier vont se servir dans les stations service pour un très maigre butin. Dans les stations de service, il y a des systèmes de coffres et l'argent n'est pas disponible à tout voleur qui voudrait récupérer un fonds de caisse. Donc aujourd'hui, aller cambrioler des stations de service, ça ne fait pas de sens, sauf si on veut récupérer quelques cigarettes et un coca et un paquet de gâteaux. Donc ça fait beaucoup de dommages causés aux exploitants et à la station de service pour au final pas grand-chose, quoi. En plus de ça, sur Mobile Poya, le véhicule a endommagé l'ensemble du tableau électrique qui du coup met à mal l'exploitation de la station-service. Ça impacte les pompes, ça impacte le site de manière générale et ça impacte toute la population. De manière générale, sur le réseau mobile, nous, on met des bollards, on va mettre un tas de moyens face à nos devantures de boutique pour que ce genre d'incident ne puisse pas se reproduire.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie qui recherche toujours activement les voleurs. Une plainte doit également être déposée par l'exploitant de la station mobile de Poya, qui restera fermée plusieurs jours.
À Conay, enfin, les pompiers s'activent encore à éteindre les derniers points chauds du dépotoir communal. Depuis deux jours, les soldats du feu, secondés par la sécurité civile et les agents de la mairie, sont sur le site. L'incendie avait démarré mardi soir vers 18h. Il est désormais maîtrisé. Une réunion a lieu ce soir entre la direction du Civom VKP et les pompiers. Le dépotoir restera fermé demain, mais ouvrira samedi. Des bennes seront installées et disposées à l'entrée du site. Face au vol, prévenir, c'est déjà agir. La police nationale et la police municipale de Nouméa unissent leurs forces dans cette nouvelle campagne de prévention. Face aux nombreux vols commis depuis le début de l'année, environ 500, les forces de police de Nouméa vont distribuer des flyers aux habitants et aux commerçants pour les inciter à être acteurs de leur propre sécurité. Marjorie Ghisoli, directrice territoriale de la police nationale.
Évidemment qu'on est mobilisé, évidemment qu'on est engagé puisque c'est notre cœur de mission. Il n'en demeure pas moins qu'on a réellement besoin de l'appui des Nouméens parce qu'ils sont acteurs de leur propre sécurité et on a besoin d'eux pour limiter cette capacité encore une fois d'accéder aux maisons, d'accéder aux voitures et de commettre des vols.
Justement, qu'est-ce que les Nouméens doivent faire pour lutter face à ces vols, à ces cambriolages répétés ?
Alors bien évidemment de ne pas intervenir à la place de la police. Bien évidemment de ne pas se prendre pour des policiers, c'est pas le sujet. Le sujet, il est d'utiliser des mesures de bon sens, de fermeture de porte, d'être attentif à ne pas laisser un sac dans une voiture. C'est vraiment des mesures simples, mais qui, quand on regarde un peu les plaintes, pour beaucoup, encore une fois, cette opportunité des délinquants est aussi, je dirais, facilitée par les gens qui peuvent peut-être être plus attentifs.
Les premiers quartiers concernés par cette distribution de flyers, Magenta et Wemo. Les policiers nationaux et municipaux sont allés cet après-midi à la rencontre des Nouméens et des commerçants comme Marie, gérante de l'Oiseau des Îles.
On fait de la prévention sur la délinquance en général, mais plus particulièrement pour lutter contre les cambriolages. Vous aurez un QR code ici à scanner avec les téléphones. Hein, et une fois scanné ce QR code, vous aurez les différentes techniques pour adopter les bons gestes et le bon comportement à avoir. Voilà les conseils à avoir.
Ben, je pense que c'est une bonne idée pour qu'on puisse faire face à les nouveaux fléaux qui vont nous attendre dans les jours futurs. Ben, ça nous permet un peu de s'adapter et puis anticiper un peu tout ça. Ben, on espère bien que ça va nous protéger avec tout ce qui déploie les forces de l'ordre pour que ça ne nous arrive pas dans les jours d'avenir, quoi. Ce qu'on espère.
Le flyer est disponible sur notre site internet, le www.rrb.nc. Que contient vraiment le projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie signé à Bougival ? Nous en parlerons demain dans nos différents rendez-vous d'antenne. À 7h30, d'abord, c'est Virginie Rufnak, la chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui sera notre invitée du matin. À midi, c'est Sonia Bakès, la chef de file des loyalistes, qui sera l'invitée du magazine Transparence. Elles seront interrogées sur le déroulement des négociations, sur le contenu de ce projet d'accord, sur les concessions faites de part et d'autre et sur le calendrier de mise en œuvre. Deux interviews à suivre demain sur Radio Rythme Bleu. Donc, à 7h30, Virginie Rufnak sera notre invitée du matin. Et à midi, Sonia Bakès sera l'invitée du magazine Transparence. Mais avant de signer un projet d'accord à Bougival, les partenaires s'étaient retrouvés avec les acteurs socio-économiques pour ce qu'on a appelé un collège économique et sociétal. Nous en avons parlé dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à midi. Les questions économiques vont être traitées au sein d'un comité interministériel qui sera conduit par Claire Durieux. Et parmi les sujets que devra traiter ce comité, la question de la filière nickel. Une filière qui reste fortement impactée, a rappelé Thomas Sevêtre, président du SEM, le syndicat des exploitants et exportateurs de minerais.
Le secteur nickel, malheureusement, son état ne s'est pas amélioré ces derniers temps. On est toujours dans des situations de blocage sur des sites miniers de la côte Est qui impactent très fortement un certain nombre des acteurs miniers et industriels de la Nouvelle-Calédonie. Le contexte international fait que on ne nous attend pas à l'extérieur. Hein. La concurrence indonésienne, elle est permanente et elle ne fait que s'accroître. Hein. Le rôle de ce pays est amené à perdurer de façon très massive dans les prochaines décennies, avec une stratégie très très bien pensée par le gouvernement indonésien, qui a une stratégie de long terme pour le développement de son industrie. Donc les annonces qui ont été faites, c'est, j'espère, le début de longues et fructueuses, j'espère, discussions. Les points qui ont été mis en avant sont, je dirais, des points de bon sens. Maintenant, le diable pouvant se cacher dans les détails, il faut savoir un petit peu quelles sont les intentions des uns et des autres sur les différents points qui sont évoqués dans l'accord.
Le travail autour de la filière nickel ne doit pas occulter la nécessaire réflexion autour de la diversification de l'économie, a rappelé la présidente du MEDEF, Mimsy Dele, qui se félicite toutefois que les acteurs de la filière nickel aient manifesté leur souhait de réfléchir à une stratégie globale.
Il a été souvent évoqué la nécessité maintenant de jouer collectif en matière de filière nickel. L'ensemble des participants reconnaissent que la stratégie de division, quelque part, qui a prévalu sur le nickel ces 30 dernières années en Nouvelle-Calédonie n'a pas été payante. Et le fait d'aborder cette filière dans un intérêt pour la Nouvelle-Calédonie en tant que collectivité, c'est très important. On espère que ça va se concrétiser. Le ministre a annoncé un sommet sur le nickel d'ici quelques semaines. Donc les travaux vont se poursuivre spécifiquement sur cette filière. Mais sur la diversification dans les communes minières, on porte depuis 3 ans l'importance de pousser le développement économique dans les terres coutumières en particulier. Il y a une dizaine de jours a eu lieu en Nouvelle-Zélande un déplacement qu'on avait demandé, financé par Nouvelle-Zélande, pour étudier le modèle maori. La Nouvelle-Zélande n'a pas d'activité minière. En revanche, l'économie en terres coutumière maori pèse 10 fois plus que l'économie coutumière en terre kanak, en s'appuyant essentiellement sur l'agriculture et la pêche. Cette mission, qui a été un grand succès, l'ensemble des participants s'en sont félicités, a permis de voir qu'il était possible assez facilement de développer cette économie primaire en terre coutumière et de diversifier notre économie. C'était même évidemment souhaitable.
Des extraits des Jeudis de l'économie auxquels participait également le vice-président de la branche BTP de la CPME, Christophe Dautieux. Émission à retrouver en intégralité sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Et on démarre avec la réponse à notre question d'hier. 67% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils trouvent insuffisante l'ouverture du corps électoral prévu dans le projet d'accord signé à Bougival. Ils sont 33% à dire qu'ils la trouvent suffisante. Notre question du jour, maintenant, le Premier ministre François Bayrou a-t-il raison, selon vous, de proposer de supprimer 2 jours de férié en métropole, le lundi de Pâques et le 8 mai, afin de faire des économies? Si vous pensez qu'il a raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. 17h57, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
La mairie de Païta et le comité des fêtes vous informent. La 27e fête du bœuf est reportée au dimanche 12 octobre en raison des fortes pluies. Rendez-vous en octobre pour partager tous ensemble une belle journée festive. Plus d'infos sur ville-païta.nc.
Info soir, Léo Fichou.
Fin de procédure concernant le budget de la bibliothèque Bernheim. La CTC avait été saisie par le haut commissaire car le conseil d'administration avait voté un budget primitif en déficit. La chambre territoriale des comptes a alors émis un avis et a laissé 2 mois à la bibliothèque pour se mettre en conformité. Jean-François Baudin.
Fin juin, note la CTC, le conseil d'administration a voté un budget primitif annexé à l'avis de la chambre territoriale des comptes. Lors de cette réunion du CA, il a été aussi examiné un plan de redressement jusqu'en 2028 et un autre plan qui ne permet pas un retour à l'équilibre du budget 2026. Aucun des deux plans n'a été voté car ils ne répondent pas aux enjeux auxquels la bibliothèque fait face. Malgré tout, le second avis clôt la procédure concernant le budget primitif 2025, mais la CTC demande maintenant à la bibliothèque de mettre en place un plan de redressement permettant le retour à l'équilibre du budget de l'établissement public et garantir les moyens de son fonctionnement, dont le paiement des salaires à partir de janvier 2026. La Chambre territoriale des comptes demande également au haut-commissaire de la République de lui transmettre les décisions modificatif du budget 2025 de la bibliothèque Bernheim, ainsi que le plan de redressement qui doit être arrêté par le conseil d'administration.
Un chantier de ferme photovoltaïque a démarré aujourd'hui à Koné. Des représentants du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la province Nord, de la mairie de Koné et des institutions coutumières étaient présents à l'occasion du lancement du projet dédié aux énergies renouvelables. Quels sont les objectifs? La responsable de l'agence Total Énergie Renouvelable Pacifique, Amandine Mignana, nous en dit plus sur ce projet.
C'est un projet de ferme solaire photovoltaïque qu'on développe depuis quelques années déjà en partenariat avec un GDPL, donc sur des terres coutumières. Nous, on est producteurs d'énergie renouvelable et on exploite des outils qui produisent de l'énergie qui est délivrée sur le réseau électrique. Et il fait partie de projets qu'on a développés dans le Nord pour répondre notamment aux besoins de la transition énergétique du territoire, au travers de son schéma pour la transition énergétique. Et le projet solaire Helio Coavi d'Astia fait partie de ces projets qu'on développe depuis plus de 10 ans maintenant pour produire de l'électricité qui est délivrée au réseau, qui est décarbonée à un coût très compétitif. Donc ça a été bien sûr bien accueilli parce que bien accompagné. On a un partenariat avec le GDPL pour 100 ans. C'est un chantier qui va durer à peu près 9 mois.
La ferme sera installée sur le terrain du GDPL de Poavi d'Aftia et sera fonctionnelle dès le premier trimestre de l'année 2026. Sensibilisée à la préservation de l'environnement, une présentation de l'Atlas de la biodiversité de la commune a eu lieu ce matin à Poum. Il s'agit d'une démarche participative réalisée avec des scientifiques, mais aussi des naturalistes et avec l'aide des coutumiers et de nombreux citoyens. Ce recueil permettra la sensibilisation des habitants à la biodiversité, explique le maire de Poum, Henriette Mahé.
Ça fait quelques années déjà qu'on travaille sur la richesse de notre environnement. Donc on a déjà élaboré un premier recueil sur la flore de la commune. Et cet atlas, c'est la suite. Là, on fait un recueil sur l'ensemble de la biodiversité pour qu'on puisse générer une sensibilisation à la protection de cet environnement. Il y a une énorme richesse dans notre biodiversité. On a pris cette initiative parce que l'équipe communale s'inquiète quand même de l'ampleur des destructions par les incendies de notre végétation. On est toujours victime d'incendies qui dévastent des hectares et des hectares de végétation. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour sensibiliser la population. Il faut aussi que les gens sachent ce qu'ils perdent, qu'on sache dans notre environnement ce qu'il y a. L'idée, c'est que tout le monde ait ce recueil pour pouvoir aussi le transmettre aux générations futures.
Ce projet a été réalisé avec la participation notamment de l'association de la sauvegarde du patrimoine de Thiébagui. En bref, l'OPT appelle la population à la vigilance. Une vague de SMS frauduleux est actuellement en cours sur le territoire. Un procédé de type phishing qui vise à tromper les usagers avec un SMS prétendant provenir d'un centre de distribution en Nouvelle-Calédonie. Un message qui indique qu'un colis ne peut être livré en raison d'une adresse incomplète et qui incite les destinataires à cliquer sur un lien. Si vous avez reçu ce SMS, surtout ne cliquez pas. Et bien évidemment, ne communiquez jamais vos informations personnelles ou bancaires à un numéro suspect. En cas de doute, vous pouvez contacter l'OPT par téléphone au 1000 ou par mail à l'adresse suivante 1000@opt.nc. Choisir ses études post-bac et s'orienter au mieux, c'est le but de Cap Horizon qui aura lieu le samedi 2 août prochain. Cap Horizon, c'est le nouveau nom du Salon des études supérieures, Jean-François.
Oui, l'ex-Salon des étudiants, devenu ensuite le Salon des études supérieures, s'appelle donc désormais Cap Horizon. Mais le principe est le même, permettre aux lycéens, voire aux collégiens et à leurs familles de se renseigner sur l'offre de formation post-bac. Mais la volonté de cet événement, c'est d'aller au plus près des publics concernés. Et Cap Horizon aura lieu simultanément dans plusieurs lieux. Ce n'est donc pas seulement un changement de nom, c'est aussi une nouvelle stratégie, explique la présidente de l'université Catherine Riss.
Ce qui est neuf et ce qui évolue beaucoup, c'est l'externalisation des événements avec plus de rencontres avec les publics, étudiants, futurs étudiants, lycéens, lycéennes, leurs familles, en dehors des établissements de formation et en dehors des horaires, on va dire, habituels. Donc on va être cette année sur, quand même, Nouméa, bien sûr, sur le campus, dans les lycées, mais on va être présent aussi en province Nord, à Koné, à Pointe-Boute et en province des îles à Lifou, dans des lieux qui sont des lieux fréquentés par un grand public, notamment les centres commerciaux.
Cap Horizon se déroulera donc dans plusieurs lieux, mais le principe reste le même, présenter et promouvoir les offres de formation. C'est d'autant plus important que cette offre ne cesse de s'enrichir.
Oui, alors elle se complexifie peut-être pas, mais disons que je pense que c'est important pour un jeune qui fait le choix d'entrer dans une formation, d'en connaître à la fois le contenu, mais surtout les débouchés en termes d'insertion professionnelle et de poursuite d'études. C'est pas forcément plus complexe, mais c'est important d'avoir une l'information qui soit la plus complète possible.
Comme les années précédentes, Cap Horizon est organisé par l'université, le vice-rectorat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il est important d'accompagner les étudiants dans le choix de leur orientation, a expliqué Isabelle Champmoreau en charge de l'enseignement au gouvernement. Surtout précise-t-elle que l'offre de formation post-bac se renforce chaque année sur le territoire, ce qui constitue un atout.
Ce qui est important surtout, c'est de faire comprendre qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a une richesse, il y a plus de 100 formations proposées, elles s'enrichissent chaque année et surtout, elles correspondent aux besoins du territoire. Donc c'est important en termes d'insertion professionnelle, c'est qu'un jeune qui choisira aussi ce type de formation peut avoir des débouchés plus faciles au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Et on voit effectivement qu'un parcours d'un ou deux ans en Nouvelle-Calédonie souvent permet de consolider ses choix. Il y a aussi une question de maturité et donc de protéger un petit peu nos élèves et de les préparer ensuite à un départ en métropole ou dans la zone, qui en général est un parcours plus réussi.
Cap Horizon aura lieu le 2 août prochain. Toutes les informations seront à retrouver dans quelques jours sur un site internet dédié. Et les lycéens qui ne pourraient pas se rendre sur l'un des sites de Cap Horizon pourront participer à un webinaire proposé par l'UNC. Ce sera le 31 juillet de 17h30 à 18h30.
Recycler, produire et utiliser différemment. C'est autour de cette idée que s'est déroulé le Challenge Startup 2025 de l'EGC Business School, consacré cette année à l'économie circulaire, Axel de France.
Pendant 3 jours, 47 élèves ont travaillé par groupe de 4 et 5 sur des projets innovants autour du recyclage et de l'utilisation responsable des ressources. Accompagnés par des coachs et des experts, ils ont présenté leur concept devant un jury de professionnels et d'acteurs de l'économie calédonienne. Et c'est le projet Airwigo qui a remporté son concours. Pierre-Louis, élève en première année à l'EGC, détaille leur travail et le déroulement de cette épreuve.
On a eu le thème des cheveux et donc on s'est dit que les salons de coiffure qui jetaient leurs cheveux, on pourrait les réutiliser pour créer un tissu qui pourrait être réutilisé pour pouvoir faire du coup un t-shirt, un vêtement de sport. Donc on a aussi fait des shorts, des pulls, des leggings et des brassières. Donc la première journée, ça a été beaucoup de travail sur la proposition de valeur, donc comment amener un produit final qui peut être présenté comme porteur de projet. Et ensuite, la deuxième journée, ça a été vraiment peaufiner le travail sur notre business model, pouvoir avoir un message clair pour nos investisseurs. Et enfin, aujourd'hui, c'était vraiment terminer le travail, vraiment détailler et peaufiner tous les petits détails qui pouvaient être à faire pour pouvoir proposer un projet qui pourrait les convaincre.
Un projet original qui a fait la différence. David Barthes, directeur général du réseau EGC France et membre du jury, explique la raison de leur victoire et l'intérêt d'avoir choisi comme thème l'économie circulaire.
La faisabilité, le passage à la phase opérationnelle très rapide, une solution très pragmatique, peu coûteuse et rapidement déployable, qui a emporté, je dirais, plus la présentation, le travail de fond des étudiants, mais effectivement une approche très pragmatique qui a convaincu le jury. Nos étudiantes et nos étudiants sont très sensibilisés à ces sujets, aux questions environnementales, à l'économie circulaire, donc on se doit aussi de les accompagner et de travailler ces thématiques-là, parce que ce sont des sujets qu'ils auront, je pense, à traiter dans leur activité professionnelle dans le futur.
L'ensemble des travaux sont prometteurs selon le jury et pourraient, à terme, aider au développement du territoire.
L'actualité dans la région. En Australie, la police fédérale a procédé à l'arrestation puis à l'inculpation de 3 jeunes d'origine vietnamienne. Ils étaient impliqués dans un important trafic de méthamphétamine. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette nouvelle affaire de drogue a éclaté lorsque les agents de la police aux frontières du port de Brisbane ont intercepté un conteneur en provenance de Thaïlande censé ne transporter que 8 caisses de rouleaux de tissu de protection contre les UV. Un examen approfondi de la cargaison a toutefois abouti à la découverte de 597 kg de méthamphétamine d'une valeur à la revente estimée à une somme équivalente à plus de 37 milliards de nos francs. Alertés, les agents de la police fédérale ont alors retiré la drogue et les caisses ont ensuite été livrées à l'entrepôt de Brisbane chargé de les réceptionner. 3 résidents du New South Wales, âgés de 22, 24 et 28 ans, ont été arrêtés en flagrant délit alors qu'ils en prenaient possession. Ils risquent la prison à vie après avoir été inculpés pour trafic de stupéfiants. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h passées de 9 minutes, vous êtes sur Radio Rythme Bleu. On marque une seconde pause avant de parler sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La fin de votre journal Le Sport avec Léo Fichou.
Et direction la métropole pour parler de rugby. Alors que le top 14 reprendra début septembre, c'est déjà la reprise pour les clubs et les joueurs. Focus ce soir sur Mathieu Huila. Après deux saisons en prêt à Vannes, le Calédonien est de retour à Montpellier. Le natif de Nouméa était ce mercredi au premier entraînement du MHR. Il est arrivé déterminé avec de bonnes intentions.
Ce qui est pour moi le résultat, on va dire, des efforts que j'ai pu faire, le travail fourni pendant les deux saisons à Vannes. Là, le projet, c'est justement de montrer de plus en plus, trouver beaucoup plus de temps de jeu et de faire ma place quoi dans l'équipe. Ça sera plus en deuxième ligne. Mais en tout cas, je pense que ça va être un peu compliqué. Pas quelque chose auquel je me cache, mais je pense que j'ai l'opportunité de me montrer pendant la pré-saison, quoi. Donc, faut que je fasse une grosse pré-saison cette année et que pour les premiers matchs de top 14, je postule, quoi.
Mathieu Huila et le MHR Montpellier commenceront leur saison de top 14 le week-end du 6 et 7 septembre avec la réception de Toulon. Du tennis à l'étranger, cette fois avec la Coupe Davis. Début de compétition compliqué pour Nicolas Ngaudrella avec l'équipe d'Océanie-Pacifique, Jean-François.
Le Calédonien est arrivé en fin de semaine dernière à Kuala Lumpur en Malaisie. Après plusieurs jours d'entraînement avec ses coéquipiers, il a disputé son premier match hier. Malheureusement, il s'est incliné en 2-7, 5-7, 1-6 face à un joueur des Philippines. Le Tahitien Gillian Osmond a également été défait en 2-7, 4-6, 3-6. Et le double composé de Makao Fati du Tuvalu et de Brent Baudinet des îles Cook a perdu 5-7, 2-6. Malgré ses défaites, Nicolas Ngaudrella apprécie sa chance de jouer à l'étranger et il ne perd pas espoir d'une montée dans le groupe supérieur.
Ici, c'est vraiment magnifique en Malaisie. On est reçus comme des rois. La Coupe Davis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, on en profite à fond et franchement, participer à cette compétition, c'est exceptionnel. J'espère qu'on va relever le challenge et si on termine deuxième de la poule, on peut quand même jouer la montée dans le troisième groupe. Donc, objectif, se ressaisir, gagner pour avoir une chance de remonter.
Et le prochain match de Nicolas Ngaudrella avec l'équipe d'Océanie-Pacifique à cette Coupe Davis sera ce soir face à un joueur du Qatar.
Sport toujours, Maxime Grousset a été élu ce jeudi athlète du mois BNC par le CTOS. Le comité territorial olympique et sportif a élu le nageur calédonien pour ses performances au championnat de France à Montpellier. Maxime Grousset avait remporté 4 titres, il avait battu 2 records de France sur le 50 et aussi sur le 100 mètres papillon. Un mois de juin exceptionnel à quelques jours des mondiaux de natation qui se dérouleront à Singapour. Et puis autre distinction, le coup de cœur de la commission des athlètes du CTOS, c'est un autre nageur qui a été récompensé. Christian Arrault, l'octogénaire, avait brillé lui aussi, c'était en mai dernier au Tunisian Open Masters de natation. Il avait remporté 6 médailles d'or. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive, on peut passer à la météo.
Votre magasin Auchan Kéferi vous présente les points météo. Le soleil brille sur vos envies et une pluie de bonnes affaires se profile à l'horizon grâce à notre carte de fidélité. Bénéficiez de 5% de cagnottage sur tous vos produits Auchan. Pour découvrir toutes nos gammes, promos et bonnes affaires, rendez-vous dans votre Auchan Kéferi.
On fait le point sur la météo avec vous, Pierre.
Yes. Prévision météo, une nuit encore nuageuse sur certaines régions. Au cours de la nuit prochaine, le ciel restera très nuageux sur l'extrême nord et le nord-est du territoire. Des passages nuageux remonteront également vers la pointe sud ainsi que sur l'île des Pins, accompagnés de quelques ondées attendues en fin de nuit. Ailleurs, les conditions demeureront globalement dégagées. Du côté des vents, ils seront faibles sur la façade ouest, tandis qu'ils souffleront autour de Dineux sur le reste du pays. Les températures minimales resteront en hausse légère, mais demeureront en dessous des normales saisonnières. Elles oscilleront entre 16 et 21 degrés avec des valeurs plus fraîches sur l'ouest et marées où le thermomètre pourrait descendre entre 11 et 15 degrés. Demain matin, entre éclaircies et passages nuageux, la matinée de demain s'ouvrira sous un grand soleil sur la côte ouest. De belles éclaircies seront attendues également sur le nord des Loyautés ainsi que sur le centre de la côte est. En revanche, ailleurs, les passages nuageux seront plus fréquents et quelques averses pourront encore concerner la pointe sud-est de la Grande Terre ainsi que Marais. Les vents d'est sud-est se maintiendront, soufflant entre 10 et 15 nœuds avec des pointes atteignant 15 à 20 nœuds sur la pointe nord.